CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Keylus par Johan.
Bonjour à tous, merci d'être fidèles au MAG du pays Midi-Quercy. Ce premier numéro de l'année 2015, c'est l'occasion de recevoir le président du pays Midi-Quercy, mais en général, le mois de janvier, c'est pour présenter ses vœux, en profiter pour faire un petit bilan, donner des perspectives. Et c'est pour ça que nous recevons Christian Maffre, président du syndicat mixte du pays Midi-Quercy et aujourd'hui du PETR. Bonjour Christian Maffre.
Avant tout, permettez-moi de vous remercier pour cette invitation et de vous présenter ainsi qu'à tous vos auditeurs mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2015. Oui, effectivement, je ne vais peut-être pas vous parler du pays aujourd'hui, mais je vais vous parler du PETR, du pays Midi-Quercy.
Alors, nous voilà en PETR.
Voilà, un PETR. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un PETR ? Déjà, notre structure, donc le pays, s'est transformé en PETR officiellement depuis le 1er janvier 2015.
Bon, si ce n'est pas vous qui le dites, c'est moi qui vais le dire. Ça s'appelle un pôle d'équilibre territorial et rural. Donc, à partir de maintenant, on va dire PETR, pour dire en gros la même chose qu'un pays, à quelques différences près, non ?
Quelques différences près, effectivement. Alors déjà, il faut savoir qu'un PETR est un syndicat mixte qu'on appelle fermé. C'est-à-dire qu'il est composé exclusivement de communes et de communautés de communes ou de communautés d'agglomération. Mais pour plus de praticité, on appellera ça des EPCI. Parce qu'on est sous le règne des sigles. Donc, profitons de parler en sigles.
Oui, donc les COMCOM sont des établissements publics de coopération intercommunale.
Les communautés de communes sont effectivement des EPCI. Alors, le PETR, par rapport au pays, présente quelques dispositions qui lui sont bien spécifiques et qui diffèrent un petit peu des anciens pays. Premièrement, parmi les spécificités en fait du PETR, on a la représentation de ses membres. C'est-à-dire que la représentation doit représenter le poids démographique de chacun de ses membres. Ça, c'est la première chose. Ceci dit, on était déjà dans ce cadre, sous notre forme connue de pays. La conférence des maires, alors ça, c'est nouveau. Tous les maires qui composent le territoire, donc les 49 maires des 49 communes qui composent notre territoire, doivent se réunir au moins une fois par an dans ce qu'on appelle la conférence des maires, où ils ont une voix consultative. Donc ils participent à l'élaboration de projets, etc. Donc c'est une nouveauté. Ensuite, nouveauté dans le PETR, mais que nous avions déjà, nous, dans le cadre également du pays, c'est le Conseil de développement territorial.
Donc, ça veut dire que la loi du 27 janvier 2014, qui est la loi de modernisation de l'action publique et territoriale et d'affirmation des métropoles, ce coup-ci entérine l'intérêt de populations civiles.
Absolument.
Qui viennent apporter un conseil, échanger avec les élus.
Absolument.
À travers le conseil de territoire.
Oui, et elle précise même que ce conseil de développement territorial, il représente les acteurs économiques, sociaux, les acteurs culturels et, nouveauté, les acteurs scientifiques et associatifs et éducatifs également. Donc ce conseil va assurer un rôle de consultation en matière d'orientation du comité syndical ou à propos de toute question d'intérêt territorial.
Non, en fait, c'est le biais par lequel des experts, des intelligences de la vie, comment on dit, civile.
Oui, voilà, c'est une. Voilà,
les élus peuvent s'appuyer dessus.
Absolument, c'est une ouverture pour les non élus du territoire. Et bon, c'est certainement même une expression de la démocratie participative. Le projet de territoire également, donc, qui est obligatoire et qui est élaboré. Alors là, nous avons 12 mois pour élaborer ce nouveau projet de territoire. Qui doit définir les conditions et les actions que nous mènerons en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, de transition écologique, voilà. Et ensuite, dans ce projet aussi territorial, on doit évoquer quelles seront les actions qui seront entreprises par le PETR pour le compte des EPCI qu'il compose et éventuellement pour le compte également du département ou de la région qui peuvent être des partenaires même s'ils ne sont pas, je dirais, membres actifs du PETR.
Ça veut dire que le PETR peut conduire des actions en étant mandataire.
Oui. Par convention, effectivement, on peut travailler dans ce sens.
Bon, mais dites-moi, ça peut-être que ça change la vie d'un tas de pays, mais pas forcément le nôtre.
Voilà.
Il y avait déjà des choses qui fonctionnaient comme ça.
Tout à fait. Donc, ces quatre dispositions que je viens d'énumérer, il y en a trois, jusqu'à présent, qui faisaient partie de notre paysage de fonctionnement. Donc, mis à part la conférence des maires, qui est une nouveauté, ça ne va pas changer fondamentalement la manière de travailler du PETR. Voilà. Alors, je pense quand même que cette conférence des maires... Et alors, il y a un rôle aussi qui est, vous l'avez souligné tout à l'heure, de par la loi, un rôle accru au niveau du conseil territorial de développement. Donc, je pense que cette conférence des maires peut permettre une meilleure lecture du rôle du PETR sur le territoire. J'en suis convaincu. Voilà. Alors, le PETR aussi, par rapport au pays, j'ai parlé de quatre axes nouveaux, même si pour nous, en fait, il n'y en a qu'un de nouveau dans ces quatre. Il y a aussi de nouveaux axes.
Donc, oui, on en parle souvent, mais quid des transferts de compétences? Parce que on continue à avoir des tas de choses à faire un peu partout. On continue à avoir des tas d'administrations et de niveaux. Le PETR en prend?
Le PETR peut prendre des compétences dès lors que ces compétences lui sont confiées, soit par les EPCI, les communautés de communes qui le composent, soit par convention avec les conseils généraux, enfin le conseil général pour ce qui nous du Tarn-et-Garonne, on est Tarn-et-Garonnais, ou avec la région Midi-Pyrénées, qui est notre région.
En fait, ça n'est fini de cette inquiétude qu'on entendait sourdre depuis 2 ou 3 ans. Les pays, c'est fini. En fait, effectivement, les pays, c'est fini, mais leur fonction est renforcée en pôle d'équilibre territorial rural.
Ah, tout à fait. C'est l'esprit.
Reconnu par la loi.
C'est l'esprit de la loi. Hein. La loi, le PETR est une variante dans la continuité des pays, mais l'assise juridique, en fait, de par la loi, en est fortifié, c'est incontestable.
Oui, parce qu'on n'était pas obligé d'être constitué un pays jusque-là.
Ah non, et puis il y avait plusieurs formes de pays. On peut avoir des pays sous forme associative, on pouvait avoir ce qu'on appelle sous forme de syndicats ouverts, ce qui n'était pas notre cas. Nous étions déjà dans un cadre de syndicats fermés, nous, c'est-à-dire composés de communautés de communes.
Alors, bien entendu, pour la mutualisation des services, on imagine que, comme souvent, ça correspond à un bassin de vie, à un projet de territoire, c'est la meilleure échelle.
Voilà. Donc, effectivement, une des nouveautés du PETR par rapport au pays, c'est que le PETR, donc, et ses communautés de communes, ou ses EPCI membres, peuvent regrouper par convention, toujours dans la convention, des services, ou les services des EPCI, peuvent être regroupés au sein d'un seul service qui sera géré par le PETR. Voilà, bon, je ne vais pas m'étendre sur la portée de cet événement, mais tout de même, nous sommes le premier PETR du Tarn-et-Garonne, ça mérite d'être souligné. Je pense que notre PETR tiendra un rôle de plus en plus important, comme vous le disiez, dans ce cadre territorial, parce que depuis quelques années, on assiste à une modification importante du paysage de gouvernance locale. Et donc, le fait que nous puissions travailler par convention, par mutualisation, je pense également que le PETR va pouvoir, comme l'était le pays d'ailleurs, mais avec plus de possibilités juridiques en tout cas, va devenir une entité qui sera l'entité référence pour traiter des événements de portée économiquement significative.
Alors, parlons-en un petit peu de l'économie, puisque le pays, avant de cesser d'exister, le 31 décembre, avait déjà déposé plusieurs candidatures d'ailleurs, on va peut-être y revenir, mais au moins une candidature à ce qui va être le programme leader, qui va orienter les fonds européens en fonction de critères d'ailleurs très bien définis. Les régions sont celles qui centralisent les dépôts de candidatures et les pays, s'ils veulent financer des projets, doivent eux-mêmes inventorier les projets auxquels ils demandent à l'Europe d'apporter une contribution. Alors, le pays est candidat, le PETR aussi, forcément, mais ça vaudrait le coup de rappeler en quoi l'interface pays a été utile pour les projets de territoire grâce aux fonds européens.
Oui. Alors, effectivement, vous parlez des fonds leaders. Donc, les fonds leaders qui ont fait l'objet, cette année 2014, d'une évaluation de ce qui s'était passé jusqu'à présent, c'est-à-dire dans le dernier programme, 2009-2014, pour être éligible dans le cadre d'un programme leader, il faut être constitué en GAL, ce qu'on appelle un groupement d'action locale. Et effectivement, le pays est déjà un GAL. Le GAL représente la superficie et la géographie des 49 communes du territoire. Donc effectivement, nous venons de candidater pour le nouveau programme leader 2015-2020. Nous avons candidaté en fin novembre 2014. Nous espérons être retenus, évidemment. Vous parliez aussi de différences qui étaient intervenues. Oui, il y a une différence qui est intervenue notable au niveau du leader, c'est que effectivement, c'est les régions maintenant qui sont maîtres d'ouvrage, j'allais dire, pour la gestion du programme leader, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
Bon, rassurons tout le monde, pour cette année 2015, c'est la région telle qu'elle était, puisque si fusion il y a, c'est à la fin de l'année, au moment des élections, le renouvellement du conseil régional. Les administrations, de toute façon, feront leur boulot comme elles étaient programmées. Hein.
Ah oui, l'administration va continuer. De toute façon, une suite de politiques publiques...
C'est garanti par le gouvernement.
Oui, voilà, les politiques, c'est pas parce que les structures évoluent que l'essence même des politiques va forcément en être affectée, même si, effectivement, il peut y avoir des différences à la marge, je dirais, sur les actions qui seront ciblées. Je suis pas très inquiet, en tout cas pour le moment, à ce sujet-là.
Oui, d'autant que une bonne partie des projets qui sont candidats à être financés sont des continuités de travaux mis en œuvre. Bon, certains sont clos, mais sont utiles. Par exemple, je pense à la charte paysagère qui avait été un des premiers recensements des paysages du territoire et qui aujourd'hui est un vrai document que toutes les mairies ont.
Absolument. Donc là, vous faites allusion à ce qu'a fait le pays et ce que fait le pays actuellement, quelles sont les actions qu'il mène. Et je crois pouvoir dire, sans me tromper, qu'il a mené et qu'il mène de nombreuses actions. Il est arrivé un moment où il faut quand même que nos auditeurs, que tous les habitants de ce grand territoire sachent précisément ce qu'a fait ce territoire.
Donc, en tout cas, ceux qui n'écoutent pas le MAG du Pays Midi-Quercy tous les lundis, parce que là, on en parle.
Comme tout le monde écoute CFM, il n'y a vraiment aucun problème.
Sinon, on peut retrouver toutes les émissions du MAG du Pays Midi-Quercy en podcast sur cfmradio.fr. Moi, je vous autorise à me lister, parce que je suis sûr que si on parle de la réalisation d'une étude de préfiguration d'un SCOT rural et que je vous demande de développer, on est fichu, on n'entre pas dans l'émission.
Bon, je vais essayer de, je vais pas tout lister, mais je vais faire un petit portrait, un petit tour en tout cas des actions qui ont été prises. Enfin, peut-être avant de lister toutes ces actions, serait-il bon de rappeler, en termes financiers, ce que a proposé le pays depuis sa naissance, c'est-à-dire en 2003, hein, donc de 2003 à 2014, le pays a soutenu pour plus de 117 millions d'euros de projets. Et tous ces projets ont pu obtenir plus de 52 millions d'euros d'aide publique, soit presque 50% de taux de subvention, ce que vous en conviendrez n'est pas si mal. Dans le pays qui est également un GAL, et comme on le disait tout à l'heure, qui a pu capter des fonds européens, vous parliez du leader, mais il y a également un autre fonds européen que nous avons pu capter, qui est le FSE, le Fonds Social Européen. Et donc, pareil, dans ce cadre-là, dans le cadre de ces deux politiques européennes, pour la période 2003-2014, le pays a capté, là aussi, pour 15 millions d'euros de projets, le pays a capté, grâce à ces deux politiques, 5,7 millions d'euros d'aide. Donc vous voyez que si on cumule tout, ça fait quand même un chiffre relativement important, certes, qui a été, je dirais, redispatché sur le territoire, redistribué sur le territoire, bon, de manière pas forcément égalitaire, mais en tout cas qui est allé sur les projets qui demandaient un soutien et qui amène dans tous les cadres une plus-value pour ce territoire-là.
Oui, et puis ça veut, au passage, ça veut surtout dire que les initiatives et les projets sont validés dans leur pertinence, puisqu'on ne financerait pas quelque chose qui ne serait pas convaincant.
Tout à fait. Il faut que déjà ces projets correspondent à une plus-value du territoire, enfin participent à son développement, et qui répondent également dans le cadre, comme je disais tout à l'heure, de ces grandes politiques structurantes.
Alors, bien entendu, par exemple, le plan climat territorial, les OPA, dans le cadre des mesures du Grenelle de l'environnement, l'isolation, la réhabilitation thermique de logements privés, tout ça sont des missions que le pays a pris à cœur, a envoyé des thermiciens, a fait des diagnostics, a même développé du conseil en énergie partagée pour aider au départ les communes sur les bâtiments publics, puisque c'est le premier impact, c'est les endroits où se réunissent beaucoup de gens. Faire financer des travaux, en tout cas savoir où il faudra mettre l'accent quand on y touchera. Tout ça a été mis en place par le pays.
C'est parfait. D'ailleurs, j'ai pas besoin de développer. Vous venez de développer très très bien ce que.
Je suis désolé, c'est parce que je les reçois toutes les semaines.
Non, mais c'est parfait. Non, mais c'est bien. Ça veut dire que vous parlez d'une politique ou d'une action spécifique qui a été mise en place par le pays. Donc, ça veut dire que elle est reconnue et elle est jugée à sa valeur.
Mélocotone et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mélocotte, nous, elle est maman. J'en sais rien, viens de moi la main. Pour aller où, j'en sais rien, viens. Papa, il a une grosse voix, tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien, viens. Mélocotone, mémé, elle rit souvent. Tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Périne, elle est grande, presque comme maman. Pourquoi elle joue pas avec moi? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Christophe, il est grand, mais pas comme papa. Pourquoi? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Dis, Mélocotone, tu crois qu'il nous aime? Ma petite boule d'or, j'en sais rien, viens, donne-moi la main.
CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG du pays Midi-Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et samedi à 18h.
Émission spéciale début d'année, Christian Maffre, président du pôle d'équilibre territorial et rural, anciennement pays Midi-Quercy.
Mais je voudrais revenir quand même un petit peu sur tout ce qu'a fait le pays, parce que on est en PETR, donc voyons ce qu'a fait le pays depuis 2003. Dans le pays, il a mis en place une charte paysagère. Cette charte paysagère, on voit maintenant que toutes les orientations qui ont été définies dans son cadre, sont maintenant incluses dans, ou en cours d'inclusion, en tout cas, dans tous les documents d'urbanisme, qu'ils soient communaux ou intercommunaux. Après, il y a eu l'étude de préfiguration d'un SCOT rural. Alors certes, cette étude a été momentanément stoppée ou arrêtée. Elle va être reprise, et j'espère qu'on va pouvoir poursuivre plus que la préfiguration, mais vraiment aboutir à l'émergence d'un SCOT rural qui prendra en compte les 49 communes de notre territoire. Nous avons également mis en place un schéma de coordination de l'économie touristique pour structurer cet axe touristique, hein, qui est quand même une des potentialités de notre territoire, mais qui, à mon sens, et au sens de plusieurs autres, était insuffisamment exploité. Donc là, c'est pareil, ce sont des choses qui sont en cours et qui vont aussi aboutir. Et le PETR peut être également, maintenant, un outil nouveau pour justement permettre d'avancer plus vite dans ce cadre-là. Vous avez évoqué le plan climat territorial, je n'y reviendrai pas, mais je rajouterai peut-être un petit commentaire parce que il va y avoir une suite. Alors, aussi très important, là j'accorde aussi une importance vraiment capitale, c'est la mise en place d'un schéma culturel sur le territoire. On a un grand territoire rural, certes, mais c'est pas parce qu'on est dans un territoire rural qu'on n'a pas droit à une activité culturelle de qualité. Donc là, je crois vraiment à la culture sous toutes ses formes. Donc il faut absolument que nous poursuivions ce qui a déjà été mis en place, ce qui a été commencé, de façon que tous les habitants du territoire, s'ils ne peuvent pas tous avoir droit au même moment, mais en tout cas, que nous ayons une activité reconnue sur ce territoire, qu'on puisse mutualiser tout le potentiel qu'il y a, et il est nombreux, il y a des gens qui font des choses de qualité. Donc voilà, je crois vraiment à la culture et... dans ce territoire. Sans culture, à mon sens, nous ne sommes rien. Ensuite, il y a eu depuis 2006 la mise en place d'un PLIE, c'est un plan local pour l'insertion et l'emploi. Ça, c'est dans le cadre des politiques européennes du FSE, comme je disais tout à l'heure. Et donc, notamment, avec la mise en place de la maison de l'emploi à Caussade. Il y a la réalisation... et qui est toujours en cours de l'inventaire numérisé du patrimoine, qui s'effectue sur l'ensemble du territoire, et qui est effectué, lui, cette mission est effectuée justement pour le compte de la région Midi-Pyrénées. Il y a des réflexions sur le développement des circuits de proximité, je vais arrêter là la liste, mais déjà je pense qu'on a une idée, un petit peu plus peut-être globale, de tout ce qu'a fait le pays, au cours de ces dernières années, et il y a plusieurs actions parmi celles que je viens d'évoquer qui vont être poursuivies sous d'autres formes.
Alors vous citiez l'inventaire du patrimoine, l'attrait touristique pour la région et le plan d'action culturelle. Mmh. Et ces trois-là, en les reliant, on s'aperçoit que finalement le label pays d'art et d'histoire, on est en plein dedans.
Bien sûr. Donc, effectivement, alors à travers ce que vous venez de dire, c'est aussi la résultante de toutes ces missions qui ont été menées ou qui sont en cours actuellement. Justement, leur application va certainement se trouver dans le cadre de notre labellisation Pays d'Art et d'Histoire. Je pense que notre territoire possède la potentialité, les qualités pour pouvoir prétendre à ce label. Et donc, effectivement, au cours de cette année 2015, si tout se passe bien, nous devrions présenter notre candidature dans ce cadre-là. Voilà en gros toute l'activité qui a été réalisée par le pays et qui est en cours actuellement, qui va être poursuivie au cours de cette nouvelle année 2015. Alors, je voudrais souligner que, outre la quantité du travail fourni, celle que je viens d'énumérer, même si la liste n'est pas exhaustive, combien toutes ces actions sont, à mon sens, primordiales pour notre territoire, et que ce travail également, s'il peut se réaliser, c'est bien sûr dans le cadre de politiques publiques, mais c'est aussi grâce à la volonté de tous les élus qui comprennent à la fois la fragilité et la potentialité de ce territoire. À mon sens, il est vraiment fondamental de construire et d'être en capacité, à travers des structures que nous menons, de saisir toutes les opportunités qui permettront de se développer. Voilà. Ce que je voudrais peut-être rajouter pour terminer, c'est que tout ce travail, comme je viens de dire, se réalise également grâce au sérieux, au professionnalisme et à la volonté d'une équipe de techniciens motivés. Je les en remercie vraiment très vivement. Et j'ai également une pensée, dans ce cadre aussi, à toutes les autres équipes techniques des autres structures qui collaborent étroitement avec eux. Donc à tous les habitants du PETR du Pays Midi-Quercy, à tous ses élus, à tous ses techniciens, je souhaite une excellente année 2015.
Et moi, de la part de CFM, je vous remercie d'avoir renouvelé la convention qui nous permet de travailler en partenariat. Nous, pour avoir des tas d'informations, vous, pour avoir de la communication, tout le monde s'y retrouve. Même si quelquefois, le sérieux des techniciens, je suis obligé de les dérider. Merci Christian Maffre, président du PETR.
Merci à vous.
Le Mag du Pays Midi-Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et samedi à 18h. Et en podcast sur cfmradio.fr, les émissions Le Mag du Pays Midi-Quercy. À la semaine prochaine !